le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure du magazine des Nations Unies. Au sommaire, un message d'espoir pour le peuple congolais annoncé pendant le séjour du secrétaire général de l'ONU et du président de la Banque mondiale. $1 milliard pour soutenir quelques projets de développement en RDC, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Cela a été annoncé lors de la visite de Ban Ki-moon et du docteur Im Yong Kim en RDC. Dans cette émission, un dossier sera consacré à ce séjour. Il fait de plus en plus chaud sur la planète et la RDC est engagée dans le processus d'atténuation de gaz à effet de serre pour bénéficier d'un financement au niveau international. Le PNUD appuie le pays dans ce programme financé notamment par l'Union européenne. Dans cette émission, un expert du programme des Nations Unies pour le développement va nous faire le point. 89% de personnes n'ont pas accès aux soins de santé dans la zone de santé du Nord Ubangi. L'UNICEF Équateur lance un cri d'alarme. Ce sera la nouvelle de province de cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à vous une fois de plus. L'actualité phare de la semaine, c'est la visite du secrétaire général de l'ONU en RDC du 22 au 23 mai. Ban Ki-moon n'était pas seul, il était accompagné du président de la Banque mondiale, le docteur Im Yong Kim. Le résumé de ce séjour conjoint dans un condensé d'Honoré Missenga Kalala, rendu pour vous par Willy Akonda.
Des rencontres à Kinshasa tour à tour avec les présidents de la République, le Premier ministre, les présidents des deux chambres de Parlement, et plus tard dans la soirée du mercredi avec les acteurs politiques et de la société civile, avant de s'envoler le lendemain pour Goma, au Nord Kivu. Le secrétaire général de l'ONU résume ici l'objectif de sa visite.
Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la République démocratique du Congo. Je suis aussi ici pour l'encourager à ne pas renoncer à l'espoir et lui faire savoir qu'elle n'est pas oubliée. L'objectif de ma visite conjointe avec le président de la Banque mondiale, Dr. Im Yong Kim, en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, est de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui a été signée à Addis Ababa le 24 février par ces trois pays et huit autres. L'objectif est aussi de montrer les bénéfices de cet accord pour la population en termes de paix.
Mais pour Ban Ki-moon, la paix et la stabilité en RDC et dans la région ne sont pas simplement une question de sécurité.
Nous devons comprendre et nous atteler à résoudre les causes profondes de ce conflit. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important de promouvoir le développement. Cela crée les conditions nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de base, ainsi que des opportunités de développement en apportant la paix, les emplois, l'éducation et la santé. Il s'agit là d'importants besoins humanitaires de base. Lorsqu'on a des projets et des politiques de développement viables, je pense qu'il y a une bien meilleure chance de résoudre pacifiquement le conflit.
Dans cette optique, le président de la Banque mondiale, Dr. Im Yong Kim, également du voyage, a annoncé les financements par son institution $1 milliard pour soutenir divers projets de développement en RDC, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Nous investissons dans ce pays essentiellement pour apporter la paix, mais aussi pour créer des emplois, a notamment déclaré le patron du groupe de la Banque mondiale. Après la RDC, Ban Ki-moon et Im Yong Kim ont poursuivi leur mission au Rwanda et en Ouganda. Et ce dimanche 26 mai, l'ONU et l'Union africaine ont convoqué à Addis Abeba la première rencontre du mécanisme de suivi régional de l'accord cadre pour la région de Grand Lac.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC est engagée depuis 2012 dans un programme national de renforcement de capacités sur les faibles émissions de gaz à effet de serre dans le processus du changement climatique. Cela avec l'appui de PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et mardi dernier, un atelier a réuni une centaine de personnes impliquées dans ce programme. Un atelier d'information sur les outils NAMAS et la mise en place de deux groupes thématiques de travail. Gilbert Ao, chef de la section en charge de lutte contre la pauvreté et du développement durable au PNUD RDC, va justement nous dire ce qu'on entend par outil NAMAS pour le décryptage de cette émission. Il répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Gilbert Ao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le PNUD appuie la RDC dans son programme national de renforcement des capacités sur les faibles émissions. Et c'est dans ce cadre qu'un atelier s'est tenu à Kinshasa, atelier d'information sur les outils NAMAS et la mise en place de deux groupes thématiques. D'abord, Monsieur Gilbert, NAMAS, outil NAMAS, c'est quoi et c'est un projet?
Bon, le NAMAS, d'abord, c'est un sigle de mots anglais qui signifie mesure nationale appropriée d'atténuation des gaz à effet de serre. C'est une initiative au niveau international où les différents pays se sont engagés à réduire les émissions de carbone pour éviter le réchauffement de la planète. Et c'est surtout sur les pays développés qui se sont engagés dans ce genre d'initiative. Les pays en développement qui n'émettent pas trop de carbone, comme la RDC, ne sont pas obligés de développer des NAMAS. Mais la RDC s'est portée volontaire pour le faire, étant donné que au niveau international, si la RDC présente de bonnes mesures pour atténuer les émissions de carbone, elle pourrait bénéficier d'un financement disponible au niveau international. Voilà, c'est dans ce sens que la RDC s'est engagée dans l'exercice.
Alors, quels sont les objectifs de cette initiative?
Bon, les mesures d'atténuation au niveau de la RDC touchent plusieurs domaines. Hein. Le principal domaine, c'est les forêts, suivi de l'agriculture et de l'énergie. Concernant les forêts, il y a un exercice spécial qui a été engagé par la RDC depuis bientôt 2-3 ans pour atténuer donc les émissions de carbone. On appelle cette initiative-là la RED, qui est une mesure spéciale d'atténuation. Donc c'est un NAMAS spécial, c'est un gros NAMAS. Et à côté de la RED, la RDC a décidé de choisir deux autres secteurs qui sont les secteurs les plus émetteurs de carbone en dehors de la forêt, c'est-à-dire l'agriculture et l'énergie. Et dans ces deux secteurs, la RDC va formuler donc des mesures ou des projets d'atténuation des émissions de carbone.
Donc les deux groupes thématiques concernent justement ces deux secteurs?
Absolument, absolument. Les deux groupes thématiques concernent l'agriculture et l'énergie, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, parce que ces deux secteurs, énergie et agriculture, contribuent pour près de 80% des émissions de carbone si on enlève la forêt. Alors pourquoi maintenant des groupes? Le secteur en lui-même comprend des sous-secteurs et plusieurs branches, dont les groupes permettent de traiter la panoplie des sous-secteurs qui se retrouvent dans le secteur. Donc ces groupes thématiques auront des tâches précises à réaliser dans le cadre de cette initiative-là.
Alors, comment le PNUD est concrètement impliqué dans cette initiative en RDC?
Je rappelle que l'atelier qui a eu lieu, c'est un atelier qui s'est déroulé dans le cadre du suivi d'un projet particulier, qui est un projet pour aider la RDC à mettre en place les NAMAS. Ce projet, il est financé par l'Union européenne, les Allemands et l'Australie. Le PNUD joue le rôle d'interface, un rôle de facilitateur technique pour la mise en place des activités de ce projet, dont je pourrais peut-être rappeler rapidement les trois grands objectifs. Premièrement, c'est aider la RDC à consolider son système de mesure des émissions de carbone. Parce que si on veut réduire le carbone, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui émet le carbone et ensuite comment on peut, de façon systématique, mesurer les émissions de carbone et savoir d'où ça vient. Donc, premier objectif, aider la RDC à mettre en place ce système. Deuxième objectif de ce projet, c'est maintenant de voir, une fois qu'on connaît les sources d'émissions, quelles sont les mesures spéciales ou les projets qu'on peut mettre en place pour réduire le carbone. Ça, c'est le deuxième objectif. Et maintenant, le troisième, c'est que la RDC doit mettre en place un système de mesures, parce qu'on peut pas, la RDC peut pas dire au niveau international je mesure, il faut bien des indicateurs pour montrer qu'on mesure et de combien on mesure. Voilà, donc le projet aide à mettre en place ces trois objectifs-là. Et le rôle du PNUD, donc, c'est d'aider le gouvernement à réaliser ces trois objectifs.
Vous pensez que ces trois objectifs peuvent être réalisés dans combien de temps?
Bon, le projet initialement est un projet de 2 à 3 ans. Tout ne sera pas bouclé forcément en 3 ans, mais on espère que dans les 18 mois qui viennent, l'RDC soit déjà en mesure de présenter au niveau international des projets concrets NAMAS qui permettrait de mobiliser des financements pour le bien-être des communautés. Parce que c'est bien de vouloir réduire les émissions de carbone, mais si les communautés qui sont concernées par la mise en place de ce projet-là ne bénéficient pas des mesures, honnêtement, je ne pense pas qu'on fait œuvre utile. Donc on espère que ces projets concrets, efficaces, seront disponibles dans les 2 années à venir.
Peut-être un dernier mot par rapport à la problématique du changement climatique.
Ben, c'est une problématique au niveau mondial qui constitue aujourd'hui l'un des grands enjeux du développement au niveau international. Les discussions ont commencé depuis longtemps avec les différents sommets. Même si le sommet de Copenhague n'a pas conduit à des résultats concrets, les discussions continuent d'année en année. Donc chaque année et en décembre, les parties prenantes se retrouvent. Mais j'avoue que la crise financière au niveau international a réduit beaucoup les ambitions. Mais la planète n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. On doit réduire les émissions de carbone. Sinon, il y a des drames qui vont se produire dans les prochaines années.
Monsieur Gilbert Rao, je vous remercie.
Je vous en prie.
Nos nouvelles en bref, les forces de la MONUSCO ont un nouveau commandant, Carlos Alberto dos Santos. C'est sur cet officier supérieur brésilien que Ban Ki-moon a porté son choix pour remplacer Xander Pakrash. Carlos Alberto dos Santos draine derrière lui une riche expérience militaire de plus de 40 ans, tant sur le plan national que sur le plan international. En province orientale, la prison centrale de Kisangani et le centre de détention d'Ossio de la même ville vont bientôt améliorer leur stockage de leurs données statistiques grâce à des outils informatiques qu'elles recevront dans le cadre de la collaboration entre le ministère congolais de la Justice, le PNUD et la MONUSCO. Rendons-nous au Sud Kivu, où la MONUSCO, le PNUD et l'OIM sont pour des procès justes, équitables et respectueux des procédures dans les juridictions militaires, notamment en matière de violences sexuelles. Voilà pourquoi ces agences onusiennes appuient la formation des acteurs judiciaires militaires et des greffiers militaires sur l'efficience et l'équité procédurale en phase juridictionnelle. Enfin, construction de latrines et assainissement du milieu dans 11 villages et écoles du territoire de Bumba, nous sommes à l'Équateur. Selon le médecin-chef de zone de santé de ce territoire, les travaux de construction des latrines et de ramassage des ordures dans ces villages et écoles ont démarré mercredi 22 mai. Les travaux exécutés dans le cadre du projet Village Assaini du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, Lokele Moloa, Lokele Mongala et Boboto figurent parmi les villages ciblés par ce projet.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité, vous vous en doutez, c'est Ban Ki-moon. Pendant son séjour en RDC, le secrétaire général des Nations Unies a accordé une interview exclusive à Radio Okapi. Le magazine UN revient sur cet entretien au cours duquel l'hôte du gouvernement congolais a demandé au peuple de la RDC de garder espoir. Suivez.
Monsieur le secrétaire général, à l'occasion de votre 3e visite en République démocratique du Congo, quel est le message que vous aimeriez lancer à l'endroit du peuple congolais?
Je suis ravi de m'entretenir avec Radio Okapi et de m'adresser à la population congolaise grâce à vous. Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la République démocratique du Congo. Je suis aussi ici pour l'encourager à ne pas renoncer à l'espoir et lui faire savoir qu'elle n'est pas oubliée. L'objectif de ma visite conjointe avec le président de la Banque mondiale, Dr. Jim Yong Kim, en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, est de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui a été signée à Addis Ababa le 24 février par ces 3 pays et 8 autres. L'objectif est aussi de montrer les bénéfices de cet accord pour la population en termes de paix. Le 26 mai, je vais convoquer une réunion pour évaluer la situation selon l'accord cadre de la paix, de la sécurité et coopération en RDC, avec mon envoyé spécial, Madame Mary Robinson, et mon représentant spécial, Monsieur Smith.
Êtes-vous optimiste que cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pourra se réaliser après tant d'échecs de tentatives de paix en République démocratique du Congo?
Of course, the promise should be kept. There were many such accords.
Évidemment, nous devons tenir nos promesses. Il y a eu tant d'accords, mais cette fois-ci, nous avons introduit de nouveaux mécanismes, de nouvelles approches reposant sur des mécanismes de contrôle au niveau tant national, régional qu'international. Le président Kabila a créé un mécanisme de contrôle qui sera présidé par un ministre assumant de très hautes fonctions au sein du gouvernement congolais. Au niveau régional, j'aurai des discussions autour de cette question avec les quatre pays qui se sont portés garants, à savoir l'Ouganda, au nom de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, et le Mozambique, en sa qualité de président de la SADC, moi-même, en ma qualité de secrétaire général des Nations Unies, et Madame Zuma, en qualité de présidente de la Commission africaine. Et au niveau international, nous aurons deux réunions d'évaluation du mécanisme de suivi chaque année. En plus, nous avons introduit un nouveau concept d'opération de maintien de la paix, en déployant une brigade d'intervention. C'est donc la toute première opération de maintien de la paix ayant un mandat fort, robuste et séparé pour imposer la paix et la sécurité.
Pensez-vous que les défis sont sous-estimés?
La situation continue d'être volatile. Une situation pareille ne peut jamais être sous-estimée. Je suis gravement préoccupé par la reprise des violences par le M23 et j'espère sincèrement que toutes les parties concernées, en particulier les FRDC et le M23, feront tout pour résoudre ce conflit par la voie des négociations. Les négociations de Kampala devront reprendre pour mettre fin à la violence.
Comment évaluez-vous le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies? Comment envisagez-vous son évolution?
La République démocratique du Congo et les Nations Unies sont partenaires depuis bien longtemps. L'implication des Nations Unies est de longue date et plus récemment, depuis la fin des années 90, les Nations Unies ont déployé une opération de maintien de la paix sous le nom de la MONUC. Nous nous efforçons réellement de contribuer à maintenir la paix et la sécurité. Malheureusement, la crise se poursuit. Maintenant, je pense que la paix et la stabilité ne sont pas simplement une question de sécurité. Nous devons comprendre et nous atteler à résoudre les causes profondes de ce conflit. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important de promouvoir le développement. Cela crée les conditions nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de base, ainsi que des opportunités de développement en apportant la paix, les emplois, l'éducation et la santé. Il s'agit là d'importants besoins humanitaires de base. Lorsqu'on a des projets et des politiques de développement viables, je pense qu'il y a une bien meilleure chance de résoudre pacifiquement le conflit.
La résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies crée une brigade d'intervention. Êtes-vous confiant que la brigade pourra améliorer la situation sur le terrain?
Le mandat de maintien de la paix des Nations Unies consiste à maintenir la paix. Lorsqu'il n'y a pas de paix à maintenir, l'opération de maintien de la paix ne peut fonctionner valablement. Maintenant, avec une situation d'instabilité, la reprise de la violence, le Conseil de sécurité a adopté une résolution historique numéro 2098 en déployant une brigade d'intervention. Cette brigade d'intervention aura un mandat spécifique d'imposition de la paix. Je suis tout à fait sûr qu'avec ce déploiement de la brigade d'intervention, nous serons en mesure d'assurer la paix et la sécurité afin de permettre au peuple congolais de réaliser son propre développement et sa prospérité.
Thank you, sir.
Thank you, merci.
La nouvelle de province de cette édition nous amène dans le nord Ubangi où environ 89% de la population n'ont pas accès aux soins de santé. Constat du chargé de survie à l'UNICEF Équateur, le docteur Joachim Mubiala. Au terme d'une mission de 10 jours dans les zones de santé de ce district, il a tiré la semaine dernière à Mbandaka la sonnette d'alarme. L'expert de l'UNICEF Équateur est au micro de Dominique Wolumbi.
Il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de populations qui n'ont pas accès aux services de soins de santé. Donc à peine 11% de la population ont accès. Donc les 89% de la population, nous ne savons pas où ils vont se faire soigner, particulièrement dans les zones de santé de Businga et Bili et Bosobolo, où la situation est vraiment très très préoccupante. Environ 10% des enfants de ces zones visitées, soit 12 485, n'ont pas accès à la vaccination des routines à la poliomyélite. Et plus de 70% des femmes enceintes n'ont pas accès aux services d'accouchement de qualité, et aussi la moitié des femmes enceintes, soit 13 212 dans les zones visitées, n'ont pas accès aux services de vaccination contre les tétanos. Et il y a la présence de beaucoup d'enfants malnutris dans ces zones-là, et surtout dans les zones qui ont accueilli les réfugiés au nord, au Ubangi, donc il y a Guado, il y a Mobimbongo, il y a Bili et puis Bosobo.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Alors je m'appelle Laurent Debock, je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, un garçon de 12 ans et une fille qui fêtera bientôt ses 11 ans. J'ai étudié la diplomatie et les relations internationales à l'université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. J'ai aussi suivi une formation sur les relations internationales et l'économie internationale dans une université aux Pays-Bas, Tilburg. J'ai enfin suivi des cours aussi, obtenu un diplôme pour enseigner dans les sciences sociales. Alors je suis le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en République démocratique du Congo. J'ai rejoint le Congo dans cette fonction fin septembre 2012, même si j'avais déjà auparavant eu l'occasion de travailler dans ce pays ou avec ses autorités dans le cadre de fonctions plus régionales. Alors aujourd'hui, mes tâches principales, c'est d'assurer que nous puissions répondre et contribuer au développement du pays pour aussi assurer la place importante que nous octroyons au bien-être des migrants, que ce soit les Congolais dans le pays, les personnes déplacées, mais également les Congolais à l'extérieur. Nous travaillons régulièrement avec la diaspora congolaise comme agent de développement du pays. Avant d'arriver en République démocratique du Congo, j'étais à l'OIM. J'avais été mis deux dernières années à disposition du secrétariat des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. J'ai travaillé pour eux dans la mise en place d'un observatoire sur les migrations sud-sud et tous les mouvements entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et ça fait déjà 17 ans que je travaille dans l'Organisation internationale pour les migrations. D'abord spécialisé dans l'urgence, principalement après la guerre qui a sévi au Rwanda. J'ai aussi travaillé au Burundi, j'ai eu l'occasion de travailler en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, et également au Pakistan, où je travaillais particulièrement sur les relations avec l'Afghanistan et l'Iran. Je me suis spécialisé plus particulièrement après dans les catastrophes naturelles, à partir de 2005, où j'étais en Indonésie, pour répondre au problème du tsunami. J'étais après appelé aussi en Haïti pour répondre aux besoins des populations après le tremblement de terre. J'ai exercé 5 ans la fonction de représentant régional adjoint à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors mes temps libres, je les passe à nager principalement, le matin quand je me réveille, m'assurer de faire un peu d'exercice. Malheureusement, le travail ici en RDC me demande beaucoup trop et donc j'ai peu de temps pour mes temps libres. J'aime lire, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir un seul livre depuis que je suis arrivé ici. J'aime la musique congolaise en particulier, et j'aime beaucoup la danse, mais je n'en ai pas souvent l'occasion. J'ai quelques projets d'avenir qui sont surtout liés à mon travail. J'aimerais pouvoir assurer que notre organisation puisse apporter le meilleur d'elle-même à toute la population congolaise et à son gouvernement, et replacer ou placer et contribuer à la position de la RDC dans l'orchestre régional d'Afrique centrale ou d'Afrique australe. J'espère aussi que bientôt ma famille puisse me rejoindre, puisque pour l'instant ils ne sont pas avec moi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Bonjour, Magazine des Nations Unies. Je m'appelle Roland Lokiyambola. Je suis de Brouillard, dans les bas-fleuves. Je n'ai pas d'emploi. J'ai une question à poser. Depuis maintenant 5 ans que M. Jean-Pierre Bemba est à la CPI, à quel niveau se situe maintenant son procès? Merci beaucoup. C'est ça ma préoccupation.
Merci Roland. Patrick Tshibuyi ou Tshibuyi de la CPI, bureau de la RDC à Kinshasa, a suivi votre question et voici sa réponse.
Alors, le procès de M. Jean-Pierre Bemba est dans la phase de présentation des éléments de preuve à décharge. Cela voudrait dire que ce sont les avocats de M. Jean-Pierre Bemba qui sont en train de présenter les preuves, sont en train de faire appel à des témoins pour démontrer que M. Bemba ne serait pas responsable des accusations portées contre lui par le procureur de la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que le procureur, lui, avait déjà présenté ses éléments de preuve soutenant les accusations contre M. Jean-Pierre Bemba. Donc maintenant, ce sont les avocats de M. Bemba, c'est à leur tour de présenter ce qu'on appelle les éléments de preuve à décharge. Le procès pénal a deux temps forts. Le premier temps où c'est le procureur, celui qui accuse, qui présente les éléments de preuve. Le deuxième temps, ce sont les avocats maintenant qui présentent leurs éléments de preuve pour dire que notre client n'est pas responsable des accusations. Et éventuellement, les juges peuvent également, s'ils le veulent, appeler des témoins experts. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des victimes qui participent aux procédures par l'intermédiaire de leurs avocats. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, ce sont les avocats de M. Jean-Pierre Bemba qui présentent leurs éléments de preuve, qui font appel à leurs témoins, qui viennent dire devant les juges que les accusations portées contre M. Bemba par le procureur ne tiennent pas et que M. Bemba n'est pas responsable. Et il y a le procureur qui contre-interroge également les témoins de M. Jean-Pierre Bemba.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Nos rendez-vous de la semaine. D'abord, la journée des casques bleus, elle est célébrée le 29 mai de chaque année. Le thème sera « Mission de maintien de paix, s'adapter aux nouveaux défis ». La MONUSCO organisera la cérémonie officielle de cette journée à Ganbat de 8h30 à 10h30. Autre manifestation prévue, journée porte ouverte à la base de UNPOL, la police des Nations Unies. Ce sera de 8h30 à 14h à Alcatel et des actions sociales dans les centres de détention ainsi qu'un match de Nzango toujours à Alcatel. De 13h à 14h. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été supervisée par Nicole Ngaka. À la coordination et au reportage, c'était Honoré Missenga. Moi, Mila Kimbini, j'étais derrière le micro, avec l'assistance technique du côté de la régie de Jean-Noël Mukondo. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le site internet www.radiocapi.net. Vos suggestions, vos questions, vos remarques, faites-nous les parvenir, s'il vous plaît, en appelant au 082 30 76 630, en postant un commentaire sur le site internet en dessous du MagUN, ou encore en nous envoyant un mail à notre adresse magun@radiocapi.net. Merci encore de nous avoir suivis de partout dans la RDC et excellente journée dominicale à tous.